Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ouvrons ce matin la parole de Dieu. Je veux que nous étudions le Jésus miraculeux. La semaine dernière, nous avons étudié le Jésus mystérieux, le Jésus des prophètes de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous étudierons le Jésus miraculeux du Nouveau Testament. Nous voulons avoir en quelque sorte une double vue, une double perspective, tout comme nous l'avons lu plus tôt lors de la lecture d'Hébreux 1, où nous avons vu que Dieu a parlé dans le passé par le biais des prophètes. Voilà ce qu'est l'Ancien Testament. À présent, il parle par le biais de son Fils, et la preuve de cela est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament présente le Jésus miraculeux. Tout à propos de lui est miraculeux. Tout à propos de lui est merveilleux. Tout sur lui est humainement inexplicable. Tout à son sujet est surnaturel et divin. Et il est important que nous comprenions cela pour que nous sachions qui est réellement Jésus-Christ. J'ai vu récemment une publicité qui soulignait l'attitude d'au moins quelques personnes à la saison de Noël. Sur une très très grande partie de cette annonce imprimée, il était écrit « Jésus-Christ, que croyez-vous que ce soit ? Votre anniversaire ? Jésus-Christ, que pensez-vous que ce soit ? Votre anniversaire ?» Une déclaration moqueuse, comme si Jésus-Christ était quelqu'un à s'inquiéter de ça. Et je suppose que nous sommes quelque peu choqués par cela. Et pourtant, nous nous attendons à certaines choses de la part d'un monde sans Christ, d'un monde laïque. Beaucoup plus grave que cela était un article que j'ai lu. C'est signé Upi, Londres. Il dit ceci. Cet éminent théologien protestant britannique ont contesté la divinité de Jésus-Christ, en disant qu'il n'a jamais prétendu être le Fils de Dieu, mais a été promu à ce statut par des influences païennes et d'autres influences, par les premiers chrétiens. Les théologiens ont lancé mardi leur livre, conjointement écrit, intitulé « Le mythe de Dieu incarné », qu'ils ont dit être une tentative de présenter un point de vue maintenant adopté par tous les théologiens. Pas par tous, malgré ce qu'ils disent. En fait, il s'agit d'un stratagème. C'est un stratagème journalistique pour que les gens inconscients pensent que tout le monde est d'accord alors que ce n'est pas le cas, et c'est aussi malhonnête que leur livre. Ils ont affirmé que la croyance en l'incarnation du Christ a surgi durant l'Église primitive par le biais d'une fusion des traditions païennes et juives existantes et de la venue d'un ange déguisé. Un des auteurs dit qu'il n'y a rien de nouveau dans les thèmes centraux de ce livre. L'histoire du christianisme comprend divers développements théologiques. Le livre poursuit en disant que le Jésus historique, qui ne s'est jamais présenté comme étant Dieu incarné, est accepté par tous les théologiens. Les laïcs chrétiens aujourd'hui ne sont tout simplement pas pleinement conscients de cela. Jésus, l'homme concret et réel, ne s'est pas présenté comme étant le Dieu incarné, ont-ils déclaré lors d'une conférence de presse. Un des auteurs a dit « Je pense que Jésus était probablement l'être humain le plus merveilleux qui n'ait jamais vécu, et qu'il était ouvert à Dieu. Quand j'essaie de former une image dans mon esprit de ce Jésus et de ses enseignements, avec l'aide de 100 ans d'érudition à notre disposition, je sens que Jésus n'était pas un chrétien. Ainsi, le monde profane se moque de Jésus. Que pensez-vous que ce soit ? Votre anniversaire ? Et le monde religieux dit qu'il n'est même pas chrétien, encore moins le Dieu incarné divin. Bien que le monde devienne un peu sentimental envers les bébés et les mangeoires, il est très difficile de ne pas être un peu ému de la beauté de cette scène, des petits animaux, les belles cartes, de la famille et de la chaleur que cette période de l'année apporte. La réalité est que le monde est encore très hostile à Jésus-Christ, et il est nécessaire de réaffirmer qui est ce Jésus-Christ. Donc, dans cet esprit, ouvrons le Nouveau Testament. Et je n'ai pas vraiment l'intention de vous donner ma propre pensée. Je veux juste vous montrer quelques éléments de la parole de Dieu. Je veux que le témoignage vienne de Dieu lui-même. Ne vous attendez pas à ce que je dise quelque chose de très profond. En fait, c'est tout le contraire. Je vais vous réciter des réalités très simples concernant le Seigneur Jésus-Christ. Simples seulement en termes de présentation. Profondes en termes d'implication et de réalité. Mais la vieille histoire doit encore être réitérée, parce que le monde ne comprend pas vraiment qui est le Christ. La raison pour laquelle ils ne comprennent pas, c'est parce qu'ils sont volontairement ignorants. Ils choisissent leur propre péché, et leur propre volonté passe avant le plan de Dieu. Donc, quand vous ouvrez le Nouveau Testament, il y a un thème dominant qui marque la vie de Jésus-Christ, c'est le miraculeux. Il est encore et toujours le Jésus miraculeux. Il est balisé comme étant divin, comme étant une divinité, comme étant Dieu fait chair, par des signes et des prodiges, en accomplissant ce qui est humainement naturellement impossible et inexplicable. Et si nous regardons Jésus-Christ, nous devons voir Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer son existence, à moins qu'il soit Dieu. Sa vie est si divinement évidente qu'aucun esprit humain n'aurait jamais pu concevoir une telle personne, n'aurait jamais pu créer une telle personne, ou ne l'aurait jamais fait. Car pourquoi les hommes inventeraient-ils un homme qui les condamne tous à l'enfer éternel s'ils ne croient pas en lui? Et comment les hommes sauraient-ils présenter la perfection alors qu'ils sont si imparfaits? Aucune plume humaine n'aurait pu créer les mots qu'il a prononcés, la vie qu'il a vécue. Et comme l'a dit Philippe Schaff, le grand historien, la vie de Jésus est le saint des saints dans l'histoire du monde. Il doit venir de Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. Même les critiques et les sceptiques sont frappés de crainte à l'égard de Jésus-Christ. H.G. Wells, l'écrivain, pensait avant tout en futuriste, mais il était en fait un occultiste, et peut-être même un médium, et était impliqué dans des entreprises sataniques. H.G. Wells écrivait en mai 1935, dans le Reader's Digest, « Quand on m'a demandé qu'un individu avait laissé l'impression la plus permanente sur le monde, la manière dont la question avait été posée impliquait presque que c'était Jésus de Nazareth, et j'étais d'accord. » Schaff, ce grand historien du christianisme dont j'ai parlé il y a un instant, dit ceci. « Ce Jésus de Nazareth, sans argent et sans armes, a conquis plus de millions de personnes qu'Alexandre, César, Mahomet et Napoléon. Sans la science et l'apprentissage, il a porté plus de lumière sur les choses humaines et divines que tous les philosophes et les savants réunis. Sans l'éloquence des écoles, il a prononcé des paroles de la vie qui n'ont jamais été prononcées auparavant, ni depuis, et ont produit des effets qui échappent à l'orateur et au poète. Sans écrire une seule ligne, il a mis plus de stylos en mouvement et fourni des thèmes pour plus de sermons et d'oraisons, plus de discussions, de volumes savants, d'œuvres d'art et de louanges que toute l'armée des grands hommes des temps anciens et modernes. Quand vous regardez la vie miraculeuse de Jésus-Christ, vous voyez qu'il est Dieu fait chair. Quoi qu'en disent ces sept théologiens protestants britanniques, tout à propos de lui est miraculeux, et les miracles évoquent Dieu. Vous voyez, les miracles ont toujours été manifestés pour authentifier la révélation divine. Quand Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, la parole écrite, il s'est authentifié par des miracles. Quand il parle dans le Nouveau Testament, le Verbe vivant, il s'authentifie avec des miracles. Et lorsque vous avez des miracles, vous avez la marque d'une intervention divine. Le fait que la Bible soit littéralement remplie de miracles est le témoignage que c'est la révélation de Dieu lui-même. Et nous ne devrions pas être choqués par les miracles. S'il y a un Dieu, alors il peut intervenir dans ce monde chaque fois qu'il le veut. Et le fait qu'il le fasse doit nous réconforter, non pas nous rendre sceptiques. Vous pourriez l'imaginer de cette façon. Si vous aviez une grande disposition de train électrique sur un grand tableau dans une pièce, et que vous avez ces différentes voies et moteurs, et que tout cela était pré-réglé, et que le train contourne ces voies, et qu'il soit contrôlé par une série de transformateurs. Vous venez de placer les interrupteurs ici et là. Vous pouvez décider de la vitesse en déplaçant un petit bouton d'avant en arrière. Et vous pouvez voir que Dieu a fondamentalement fait de même dans l'histoire humaine. Il existe un schéma. Les mouvements se font de ci, de là, selon un plan. Tout se déroule selon la façon dont c'est agencé, comme Dieu en quelque sorte déplace le transformateur divin. Mais tout comme l'homme avec ce petit système, de temps en temps, il veut changer quelque chose, alors il descend juste et prend le contrôle de la locomotive. Or, si vous êtes une petite personne qui circule dans ce train, vous pourriez être un peu déconcerté par ce qui vient de se passer. Mais de notre point de vue, c'est très simple à comprendre. Il prend la locomotive, la déplace ici, attache différentes voitures, crée une configuration différente, déplace la piste, et nous ne paniquons pas. S'il y a quelqu'un de plus grand que le système, il peut intervenir dans le système quand il veut. Et Dieu fait la même chose. Dieu a placé des choses sur la voie. Il les a mises en mouvement. Elles sont guidées par son divin transformateur, qui détient toutes choses par la parole de sa puissance. Mais de temps en temps, il descend et fait quelque chose qui est totalement incompréhensible et inexplicable de notre point de vue. Et quand cela arrive, nous savons qu'il y a un Dieu, tout comme si cela se produisait dans un petit train. Tout le monde dans une voiture sait qu'il y a quelqu'un de plus grand que le système. Et ainsi nous permettons à Dieu d'intervenir. Et quand Dieu se révèle, il doit se révéler de telle sorte que vous sachiez qu'il est Dieu et non un homme. Il doit donc faire des choses surnaturelles. Et quand vous regardez la vie de Jésus-Christ, s'il y a une chose que vous savez avec certitude, c'est qu'il est Dieu, parce qu'il fait ce qu'aucun homme ne pourrait jamais faire, et il dit ce que personne n'a jamais pu dire. Et il n'y a pas d'autre explication que celle-là. Jésus est Dieu, et dire qu'il ne l'a jamais prétendu, c'est le comble de l'idiotie, parce que c'est précisément ce qu'il prétendait. Regardez dans Jean, chapitre 5. Nous allons commencer par ce point. Nous allons juste étudier plusieurs passages et rafraîchir notre esprit par l'émerveillement du Jésus miraculeux. Dans Jean 5, au verset 18, nous lisons ceci. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Les Juifs voulaient tuer Jésus, et ici, il nous dit pourquoi. Parce qu'il n'avait pas seulement brisé le sabbat, c'était la pire des choses, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus se rendait égal à Dieu. Il le savait, il le comprenait, et il s'en offusquait. Il y a peut-être des sceptiques et des critiques aujourd'hui qui ne savent pas ce que Jésus disait, mais les Juifs en étaient sûrs, eux. Ils savaient exactement ce qu'il disait. Il se rendait égal à Dieu, et ce faisant, il était soit Dieu, soit l'ultime blasphémateur. Il était le Christ ou il était l'Antéchrist. Il n'y a rien entre les deux. Verset 23. Il est allé plus loin que simplement dire qu'il était égal à Dieu. Il a demandé à être honoré de manière égale. Il est dit que tous les hommes devraient honorer le Fils de la même manière qu'ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Il exige l'honneur égal, l'égale adoration, l'égal hommage, le même culte que Dieu le Père. Il dit que vous ne pouvez pas séparer les deux. Si vous adorez l'un, vous devez adorer l'autre. Si vous adorez l'autre, vous devez adorer celui-là. Il demande donc à être reconnu comme égal avec le Père, égal par sa nature, égal par le culte. Pourquoi ? Quelle preuve avons-nous qu'il soit égal à Dieu, qu'il soit Dieu fait chair ? Au verset 32, du même chapitre, il dit « Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. » Puis, il parle de Jean-Baptiste, qui était aussi un témoin, mais pas le témoin suprême. Puis, au verset 36, il revient à ce témoin suprême qu'il a mentionné dans le verset 32, ou plutôt verset 36. Il répète ce qu'il a mentionné au verset 32. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Et qu'est-ce que c'est ? Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » En d'autres termes, la vie miraculeuse de Jésus est le témoignage de sa nature divine. Je veux dire que s'il faisait ce que font les gens normaux, il n'y aurait aucune raison de supposer qu'il était divin. Aucune raison du tout. Il a donc fait ce que les gens ne peuvent pas faire. Il a fait du miraculeux, du surnaturel, du divin, afin qu'il n'y ait aucun doute sur son origine. Et ses œuvres miraculeuses nous disent exactement qui il est. Regardez encore le 10e chapitre de l'évangile de Jean. Et c'est un accent particulier que met Jean ici. C'est la divinité de Jésus-Christ, à laquelle il revient encore et encore. Mais encore une fois, nous trouvons les Juifs au verset 24, confrontant Jésus-Christ. Et ils disent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Combien de temps vas-tu te révéler d'une manière qui ne nous est pas claire ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Donne-nous une réponse vraiment claire, afin que nous comprenions sans aucune hésitation qui tu es. » Il leur répond au verset 25, et voici la déclaration la plus claire qu'il puisse faire. « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Si vous voulez un témoignage clair, regardez ma vie. Regardez ma vie, regardez mes œuvres. Comment pouvez-vous expliquer qui je suis autrement par le fait que je sois divin ?» Nicodème est venu à Jésus pendant la nuit et lui a dit « Nous savons que vous êtes un enseignant venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que vous faites, à moins que Dieu ne soit avec lui. » Nicodème pouvait comprendre ce qu'il ne pouvait pas comprendre. « Dis-le-nous clairement. » Voilà sa réponse. « Et vous n'aurez jamais plus clair que ça. Regardez les miracles de ma vie, et ensuite vous décidez. » Et les miracles dans le Nouveau Testament sont littéralement illimités, innombrables, et ils sont attestés encore et encore et encore par des masses de personnes qui les ont consignés durant toute l'histoire de l'humanité. Ce sont des miracles vérifiables, et ils sont le témoignage clair de l'identité de Jésus. Dans Jean 14, 11, « Croyez-moi, dit-il, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne pouvez pas le croire parce que je le dis, alors croyez-moi pour mes œuvres mêmes. Croyez-moi pour ce que vous voyez. » Dans Luc 7, Jean-Baptiste envoyait un messager à Jésus. Il dit au messager, « Demandez à Jésus s'il est celui que nous croyons être. Est-il le Messie ?» Et Jésus répond au messager, après qu'il ait posé la question, « Rentrez et dites ceci à Jean. Dites-lui que les boiteux marchent et que les aveugles voient, que les sourds entendent et que les morts ressuscitent de la tombe. Dites-lui ces choses et il le saura. Parle-lui des miracles. Parle-lui des miracles. Il n'y a pas de plus grand témoignage de Jésus que le pouvoir du Père qui a coulé à travers le Fils. Et c'est le témoignage de Jésus lui-même. » Tournons-nous à présent vers la parole de Dieu et observons le Jésus miraculeux. Observons simplement plusieurs éléments de la vie miraculeuse de notre Seigneur. D'abord, sa naissance miraculeuse dans le chapitre 1 de Matthieu. Nous allons simplement effleurer ces thèmes. Matthieu chapitre 1. Sa naissance miraculeuse. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. C'était une période d'engagement préconjugal, des fiançailles, où ils n'avaient pas encore eu de relations sexuelles. Ils étaient fiancés, avant qu'ils eussent habité ensemble, avant d'avoir une relation sexuelle. Elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Or, cela n'est jamais arrivé, avant ou depuis. Le Saint-Esprit a planté la graine en elle, sans l'aide d'un homme, comme instrument. Eh bien, Joseph, son mari, était un homme juste, un homme droit. Il ne voulait pas faire d'elle un exemple public. Il aurait pu la traîner devant toute la communauté et la lapider devant tout le monde pour adultère. Mais il ne pouvait vraiment pas faire ça. C'était un homme juste. Il voulait faire ce qui était juste, mais il ne voulait pas faire ce qui était peut-être l'option la plus dévastatrice qu'il avait. Alors, il a décidé de divorcer. La loi prévoyait qu'en cas d'adultère, le divorce pouvait avoir lieu. Donc le verset 20 dit qu'il a commencé à y penser. Après tout, il y avait cette femme qu'il s'imaginait être si pure et sans tache et vierge du plus haut rang. Il la connaissait depuis assez longtemps pour savoir la qualité de sa vie, et maintenant la voilà enceinte, et il sait que ce n'est pas de lui. Il suppose que ce doit être de quelqu'un d'autre. Il est brisé, choqué et abattu. Il ne sait pas quoi faire, à part divorcer. Alors qu'il réfléchit au verset 20, un ange du Seigneur lui apparaît dans un rêve et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il n'y avait pas d'autre homme. Le Saint-Esprit a fait cela. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus signifie « sauveur ». Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point. Il n'eut aucun lien conjugal avec elle, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. C'est une naissance miraculeuse, une naissance sans père humain. Vous me direz, Cela n'a-t-il pas été rajouté plus tard, comme certains mythes païens qui ont fait leur chemin dans le christianisme? Non, pas du tout. Vous pouvez revenir à certains documents qui ont été trouvés dès 70 après Jésus-Christ, et vous trouverez dans une liste de généalogie le nom de Jésus, qui est dit être le fils bâtard d'une femme mariée. Donc même alors, ils savaient que Joseph n'était pas son père, mais ils ont supposé le pire, et ils ont supposé qu'il était un fils illégitime. Vous pouvez revenir à la vieille légende de Pantera, le légionnaire romain, supposé avoir fécondé Marie, et tout ce que ça vous dit, c'est qu'il n'y avait aucune explication humaine concernant Joseph et Marie pour expliquer qu'elle était enceinte, et que le monde voulait imaginer le pire, et finit avec une Marie adultère pour résoudre le problème. Ce que ça nous dit, c'est qu'en vérité, il y a eu une naissance virginale qui ne pouvait pas être expliquée par des faits de nature humaine. Vous voyez qu'en Jean 6, 38 dit que Jésus a dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il disait quelque chose de très profond. Jésus n'a pas commencé à exister quand il est né à Bethléem. Il a été envoyé par Dieu sous cette forme humaine. Il existait déjà, et il est entré dans ce corps humain. Et quand le temps fut venu, il est retourné auprès du Père, d'où il était originaire. Mais il a préexisté, et le Saint-Esprit a planté la graine en Marie, pour lui donner une forme physique, qui pourrait être occupée par le deuxième membre de la Trinité qui a toujours existé, de toute éternité. C'est pourquoi, dans Jean 1, il est dit de lui, « Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il était le Créateur Dieu lui-même. Il a préexisté à sa propre incarnation. C'est pourquoi il est dit au verset 10, « Il était dans le monde, et le monde a été créé par lui, et le monde ne l'a point connu. » C'est pourquoi il est dit dans Jean 1, 14, « La parole a été faite chair. La parole a toujours été. » Elle est simplement devenue chair et a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, et nous avons vu que c'était la gloire du Fils, unique, plein de grâce et de vérité. C'était la divinité faite chair. Jésus a représenté cela, au point que les Juifs sont littéralement devenus paniqués. Dans Jean 8, 56, il parle d'Abraham et dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Et les Juifs ont répondu, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Et il dit alors, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Vous savez quelle a été leur réaction. Ils ont saisi des pierres pour le lapider, et il leur a échappé. Dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean, au verset 28, il dit, « Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. » En d'autres termes, il préexistait. Il est venu du Père dans le monde. Il quittera le monde et retournera au Père. Dans Jean 17, 5, il prie. Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Parce que j'ai achevé le travail que tu m'as donné à faire ici-bas. Jésus-Christ a toujours existé en tant que déité, face à face avec le Père. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Proston théon, la parole était avec Dieu, face à face, à relation égale dans la Trinité, et il est venu dans le monde en s'incarnant. C'est pourquoi, dans 1 Jean 4, versets 2 et 3, il est dit, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » Rien de moins que cela, et vous êtes l'esprit de l'Antéchrist. Et ainsi une naissance miraculeuse est le commencement du Jésus miraculeux en ce qui concerne son existence terrestre. Il est dit dans Hébreux 10, 5, « Tu m'as formé un corps. » Ainsi Jésus, l'homme, était Dieu demeurant sous forme humaine. Dieu a créé cet embryon en dehors de Joseph et Marie et l'a placé dans l'utérus de Marie, avant sa naissance. Quand cet enfant est né, dans ce corps, il y a été placé le Dieu même de l'éternité. Bien sûr, c'est une impossibilité biologique, mais ça ne nous choque pas, n'est-ce pas? S'il y a un Dieu, il peut intervenir dans le progrès naturel et faire ce qu'il veut. Non, la naissance virginale n'a pas été inventée par quelqu'un. La naissance virginale est la seule façon d'expliquer Jésus-Christ. C'est ce que dit la Bible. Il n'y a pas d'autre explication. Il y a plus que ça. Qu'en est-il de sa vie sans péché? C'est un deuxième élément de sa personne miraculeuse. Regardez dans Hébreux au chapitre 4. Il découle un corollaire du premier élément. S'il est né, conçu par l'Esprit Saint, on s'attendrait à ce qu'il soit différent de tous les autres, et en fait, c'est le cas. Dans Hébreux 4, 15, il est dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. En d'autres termes, nous ne nous tournons pas vers quelqu'un qui ne nous comprend pas. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il est sans péché, pas de péché en lui, aucun. » Dans le chapitre 7, verset 26 d'Hébreux, il est dit de même qu'il est un souverain sacrificateur, qui est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Il n'a pas besoin d'offrir de sacrifice pour son propre péché. Vous voyez, il est sans péché, et c'est le deuxième élément de sa personne miraculeuse. 1 Pierre 2. Voici le témoignage de deux personnes qui ont vécu avec lui pendant 3 ans. Pierre dit dans 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Écoutez bien, lui qui n'a point commis de péché. Voilà ce que dit Pierre. Pierre était étroitement attaché à lui pendant 3 ans, intimement impliqué avec lui, et il dit qu'il n'a jamais péché, jamais. Jean le bien-aimé, qui s'appuyait contre sa poitrine, certains le sentaient le plus proche du cœur de Jésus pendant sa vie sur terre. 1 Jean 3, 5 nous dit « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Et ce sont les témoignages de Jean qui le connaissait si bien, et de Pierre qui le connaissait bien aussi. Il n'y avait pas de péché en lui. Même Judas, qui aurait été ravi d'avoir trouvé des raisons de justifier la trahison qu'il a faite, ne pouvait pas en trouver. Il ne pouvait rien trouver pour calmer sa propre souffrance, apaiser sa propre culpabilité, pour soulager la douleur énorme de ce qu'il avait fait. Essayant de se débarrasser de l'argent et de laver le sang de ses mains, il crie « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Croyez-moi, s'il avait pu trouver un moyen de sortir de sa culpabilité, il l'aurait trouvé. Paul dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » Dans Jean 8, 46, Jésus a dit « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Et c'est le silence. Même à son procès, il ne pouvait rien trouver. En vain, regardons-nous la biographie de Jésus-Christ pour y trouver une seule tache, ou la moindre ombre sur son caractère moral, tout à fait pur. Même Pilate, qui aurait donné n'importe quoi pour avoir trouvé juste une accusation pour légitimer la condamnation de Jésus-Christ, pour soulager sa propre culpabilité, qui aurait trouvé avec bonheur seulement une faute, a dû dire à la foule « Je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Personne n'a jamais rien trouvé. Les Romains ne pouvaient pas. Les Juifs ne pouvaient pas. Les disciples ne pouvaient pas. L'histoire ne pouvait pas. Personne ne pouvait lui trouver de faute, parce qu'il n'y en avait pas. Et ce n'était pas seulement son absence de péché. Il y avait aussi la présence de la justice et de la sainteté absolue. Jésus n'aurait jamais pu écrire le psaume 51. Il n'aurait jamais pu écrire le psaume 32. Il n'aurait jamais pu écrire le chapitre 7 de Romains. Jésus n'a jamais confessé de péché. Il n'a jamais eu besoin de confesser de péché. Il n'y a jamais eu de péché à confesser. Il n'a jamais eu besoin de grâce. Il n'a jamais eu besoin de pitié. Donc, on débute avec une naissance miraculeuse. Et ensuite, vous avez une vie miraculeuse sans péché. Comment expliquez-vous cela? Vous ne pouvez pas l'expliquer humainement. C'est inexplicable. Il y a un troisième facteur. Ces mots sont miraculeux. Ces mots sont miraculeux. Luc 4, 32 dit qu'ils étaient continuellement étonnés de son enseignement. Jean 7, 46. Les huissiers du temple sont revenus après qu'ils aient été envoyés pour ramener Jésus. Ils sont revenus et ils ont dit, ils étaient stupéfaits. Ils ont dit jamais, jamais un homme n'a parlé comme cet homme parle. Quand il prononce le sermon sur la montagne à la fin de Matthieu 7, il est dit qu'ils furent littéralement choqués, parce qu'ils parlaient comme quelqu'un qui avait de l'autorité, pas comme les scribes et les pharisiens. Quand il avait 12 ans, dans Luc 2, 46-47, il est entré dans le temple, et les dirigeants d'Israël, parlant à un enfant de 12 ans, étaient absolument stupéfaits de ses questions et de ses réponses, dit le texte. Personne n'a jamais parlé comme il a parlé. Personne n'a jamais parlé comme il a parlé. Personne n'a jamais eu la sagesse qu'il avait. Toutes les sources communes de l'histoire sont d'accord pour dire que Jésus-Christ est le plus grand maître qui n'ait jamais vécu. Même les gens qui l'ont rejeté ne peuvent pas nier l'incroyable pouvoir et la sagesse de son enseignement. Les évangiles, sans nul doute, sont la plus grande littérature jamais écrite. Ils sont lus par plus de gens, cités par plus d'auteurs, traduits dans plus de langues, présentés dans plus d'arts, mis plus en musique que n'importe quelle autre chose jamais dite ou jamais écrite, et, probablement, toutes les autres choses combinées. Leur grandeur réside dans la spiritualité pure et lucide qui consiste à traiter clairement, définitivement et de façon autoritaire les plus grands problèmes qui palpitent dans le cœur humain. Vous voyez, Jésus s'est attaqué aux vraies questions. Qui est Dieu? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il se soucie de moi? Que dois-je faire pour lui plaire? Comment me regarde-t-il? Qu'en est-il de mon péché? Comment puis-je être pardonné? Où irai-je quand je mourrai? Comment vivrai-je dans ce monde? Comment vais-je traiter les autres? Toutes ces questions profondes auxquelles Jésus a répondu. Shalem H., un juif, écrit « Jésus-Christ est la personnalité la plus exceptionnelle de tous les temps. Aucun enseignant juif, chrétien, bouddhiste ou musulman n'enseigne comme un guide pour le monde dans lequel nous vivons. D'autres enseignants peuvent avoir quelque chose de fondamental pour un oriental, un arabe ou un occidental, mais chaque acte et chaque mot de Jésus a de la valeur pour nous tous. Il est devenu la lumière du monde. Pourquoi ne devrais-je pas, en tant que juif, en être fier? Un enseignement miraculeux. Nicodème avait raison. Il était le professeur numéro un en Israël. Peut-être est-il venu à Jésus en disant « Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Il n'y avait pas d'autre moyen d'expliquer ses paroles. » Les pharisiens et les scribes, qui avaient passé toute leur vie à essayer d'apprendre la sagesse de la loi, ont fui les conversations avec Jésus, littéralement paralysés par la stupeur, abasourdis par ses réponses. Il enseignait à propos de Dieu, et il connaissait Dieu. Il enseignait sur les anges, il enseignait sur le ciel, il enseignait sur la terre, il enseignait sur l'enfer, il enseignait sur le péché, il enseignait la sainteté, il enseignait sur le passé et l'a interprété, il enseignait sur le présent, et il enseignait sur le futur et l'a prédit, et personne ne lui a jamais posé de question à laquelle il ne pouvait pas répondre, et personne n'a jamais posé de problème qu'il ne pouvait pas résoudre. Il a étonné les gens. Il a confondu les gens. Il n'y avait pas d'explication à ses paroles, autre qu'il était Dieu. Puis il y a un autre élément du Jésus miraculeux, ses œuvres surnaturelles. Et nous l'avons vu un peu au début, quand nous avons commencé ce matin. Mais il n'y a aucun moyen d'expliquer les œuvres que Jésus a accomplies, excepté par le fait qu'il soit Dieu fait chair. Il n'y a juste aucun autre moyen. Personne, dit Nicodème, ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. C'est évident. Maintes et maintes fois, les témoins oculaires, qui étaient là, ne pouvaient conclure qu'une chose, qu'il faisait ces choses surnaturellement. Parfois, ils voulaient l'attribuer à Satan, mais cela était impossible, parce que ses œuvres étaient toujours moralement pures, et devaient donc provenir de Dieu. Dans Matthieu 4, 24, il est dit « Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Il les a tous guéris. Comme nous l'avons appris dans l'évangile de Matthieu, il bannit la maladie de Palestine durant les années de son ministère. C'était une incroyable démonstration de puissance divine d'un bout à l'autre de cette nation. Comment expliquer cela? Il a guéri tout le monde, et il les a guéris instantanément, et il les a complètement guéris. Et le but n'était pas seulement de guérir, c'était de certifier son messianisme, d'authentifier sa divinité. Voilà pourquoi il l'a fait. Dans Jean 2, 23, quand il était à Jérusalem durant la Pâque, le jour de la fête, beaucoup croyaient en son nom quand ils voyaient les miracles qu'il faisait, et c'était le but. Il n'a pas seulement guéri les gens pour qu'ils puissent être bien, il les a guéris pour qu'ils croient qu'il était Dieu fait chair. Il n'a pas simplement ressuscité les morts pour qu'ils puissent être en vie. Il a ressuscité les morts afin que les gens voient qu'il était Dieu en action. Il n'a jamais fait de miracle pour satisfaire la curiosité. En fait, quand les gens sont venus pour cette raison, il a simplement dit « Je ne vous donnerai aucun signe ». Ces miracles ont montré qu'il venait littéralement de Dieu. et voici sa façon de montrer comment il contrôlait la nature. Il a transformé l'eau en vin, dans Jean 2. Il a calmé la tempête, dans Matthieu 8. Il a pu contrôler le poisson, dans Luc 5 et Jean 21. Il pouvait multiplier la nourriture, dans Jean 6. Il a marché sur l'eau, dans Matthieu 14. Il a pris de l'argent de la bouche d'un poisson, placé là, pour qu'il y ait assez d'argent pour payer ses impôts, et ceux de Pierre, dans Matthieu 17. Et le figuier s'est desséché, quand il l'a maudit, dans Matthieu 21. Regardez le contrôle qu'il avait sur la maladie. Juste quelques exemples. Il a guéri un lépreux, dans Luc 5. Il a guéri un paralytique, dans Matthieu 2. Il a guéri la mère de la femme de Pierre, dans Marc 1. Il a guéri le fils du noble, dans Jean 4. Il a guéri une main desséchée, dans Marc 3. Un sourd et muet, dans Marc 7. Un aveugle, dans Jean 9. 10 lépreux, dans Luc 17. L'oreille de Malchus a été restaurée, dans Luc 22. Il a guéri une autre maladie, appelée hydropisie, dans Luc 14. Et ce ne sont que des exemples parmi d'autres. Or, comment expliquez-vous cela? Aucun soi-disant guérisseur des temps modernes, qu'il soit charismatique ou psychique ou autre, ne peut se comparer au Seigneur Jésus-Christ. Il a affronté la mort et l'a maîtrisée. La fille de Jaïrus était morte, il l'a ressuscité des morts. Le fils de la veuve était mort, il l'a ressuscité des morts. Dans Luc 7, Lazare était mort. Dans Jean 11, il l'a ressuscité des morts. Puis quand il est mort, il s'est relevé lui-même. Comment expliquez-vous cela? Vous me direz que ce n'est pas vrai. Ne dites pas ça. Le témoignage des Écritures dit que cela est vrai, et toute l'Écriture rassemble des preuves historiques et des témoins oculaires de toutes ces choses qu'il est impossible de réfuter. Le témoignage de Julien l'Apostat est intéressant. C'est un titre somme toute intéressant, n'est-ce pas? Julien l'Apostat était un empereur romain, ayant régné environ 361 à 363. C'était un ennemi des chrétiens et un ennemi du Christ. Voici ce qu'il écrit. Je pense que c'est vraiment intéressant. Jésus est maintenant révéré depuis environ 300 ans, n'ayant rien fait dans sa vie qui soit digne de gloire, à moins que quelqu'un ne pense que ce soit un très haut fait de guérir les boiteux et les aveugles, et d'exorciser les démoniaques dans les villages de Bethsaïda et de Béthanie. J'aime cette citation. À moins que vous ne pensiez que ce soit un événement majeur, il n'a rien fait. Il est intéressant de constater que même un sceptique comme Julien l'Apostat ne puisse nier le fait qu'il ait accompli ceci. Bien sûr qu'il l'a fait. Ses œuvres miraculeuses sont parmi les vérités les plus attestées dans toute l'histoire de l'humanité. Le Nouveau Testament est un récit complet, écrit non seulement par Matthieu, mais par Marc, non seulement par Marc, mais par Luc, non seulement par Luc, mais par Jean, et non seulement par eux, mais aussi par Pierre et par Paul. Tout est là. Il y a un autre élément de sa vie qui est miraculeux, et c'est son influence miraculeuse. La seule façon d'expliquer l'influence de Jésus-Christ est qu'il a dû être plus qu'un homme. Son influence est citée de manière réduite par une simple déclaration merveilleuse dans Actes 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre. Autrement dit, qu'il peut faire quelque chose que personne d'autre n'a pu faire dans toute l'histoire du monde. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être quoi? Sauvés. De tous les êtres qui ont déjà vécu dans l'histoire du monde, ou qui ne vivront jamais. Seul l'un d'entre eux a eu l'influence qu'il a eue, à savoir sauver les hommes de leurs péchés, de l'enfer, de la mort, de Satan. Il est le seul. Personne n'a jamais été comme lui. Il est absolument unique. C'est le Sauveur. Renan, même l'athée français Renan, a dit « Quelles que soient les surprises du futur, une chose est sûre, Jésus ne sera jamais dépassé. » Napoléon a dit « Je connais les hommes, et je vous le dis, Jésus n'est pas un homme. Entre lui et tous les autres hommes dans le monde, il n'y a point de comparaison possible. Jésus a sauvé les hommes de leurs péchés, et il le fait encore, et depuis qu'il l'a fait, il n'a jamais été égalé. » Savez-vous qu'il n'existe pas d'ex-chrétien? Il n'y en a jamais eu. Personne ne veut jamais renoncer, une fois entré. Il y a des gens aujourd'hui dont la vie est transformée par le pouvoir et l'influence de Jésus-Christ, pour tous les temps et l'éternité. Personne n'a jamais eu ce genre d'impact. Les gens aujourd'hui se précipitent dans les bras de Jésus-Christ pour recevoir le don du salut. Jésus a donné à certains hommes un tel impact qu'il a été inégalé depuis dans les annales entières de la race humaine, et après 2000 ans, Son impact se poursuit. Son influence se perpétue. Et chaque jour, il y a des gens qui vivent d'énormes expériences révolutionnaires qu'ils associent à Jésus-Christ. La personnalité du Christ est sans égale, sans comparaison, unique et incomparable. Il est le maître suprême de tout, le maître des foules affamées et des pharisiens en colère, le maître des théologiens intelligents et des pêcheurs amers, le maître des disciples stupides et des gouverneurs romains. Il est son propre maître. Il lutte au milieu de la nuit sur le mont des Oliviers, combattant dans la sueur, dans le sang et les larmes, et sortant victorieux de par son dévouement complet à Dieu. Durant la terrible agonie de la croix, il est le maître. Tout autour de lui est en furie. Même les éléments sont dans le chaos, et il est calme. Maître de sa propre volonté, de sa propre langue, de son propre cœur. Il fait une pause sur la croix, au milieu de tout ce chaos, quand il porte nos péchés, pour pardonner le voleur pénitent. Il ouvre les portes du paradis à ce voleur. Il réconforte sa propre mère. Il prend soin de son disciple bien-aimé, Jean. Et au milieu du choc de la perte de sang et de la terrible soif qu'il a endurée, il accomplit calmement la dernière prophétie et dit « J'ai soif ». Il sait ce qu'il fait et offre son esprit à Dieu. Et en faisant cela, il a acheté le salut pour tous ceux qui viennent à lui. Il a influencé le monde comme aucun être humain qui n'a jamais vécu, et il a influencé le monde plus que tous ceux qui ont vécu ici-bas ont pu l'influencer. Pensez à ce qu'il a fait. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Il a dit « Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Il a dit « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Il a dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Il a dit « Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. » Il a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il a dit « Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Il a dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Il a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Il a dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il a dit « Je suis la porte, je suis le berger, moi et le Père, nous sommes qu'un, je suis le pain de la vie, etc. » Vous voyez de façon unique, dans chacune de ces déclarations, il prétendait être quelqu'un que personne d'autre en ce monde ne pourrait jamais être, le Sauveur, son influence miraculeuse et stupéfiante. Enfin, le dernier élément de son influence est son pouvoir miraculeux sur la mort. Dans le chapitre 2 d'Hébreux, au verset 14, il est dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Il a dit qu'il prendrait une forme humaine pour vaincre la mort, et il l'a fait. Il a contrôlé la mort. Il a dit « Personne ne prend ma vie dans Jean 10. Je la donne de moi-même. » Et il l'a fait. Il est mort comme prévu. Il a contrôlé son propre enterrement, même si son corps était mort. Il a contrôlé toutes les facettes de son enterrement. Il s'est assuré qu'il ne l'enterrerait pas après le coucher du soleil, car cela aurait modifié les 3 jours, 3 nuits. Il s'est assuré que tout était fait dans les délais. Il s'est assuré d'être sorti de la tombe à temps. Même quand son corps était dans la tombe, son esprit était en bas, proclamant la victoire sur les démons déchus liés dans la fosse. Jésus a contrôlé chaque élément de sa mort, chaque élément de son enterrement, chaque élément de son temps dans la tombe, et de sa résurrection aussi. Il avait le pouvoir sur la mort. Il a vaincu la mort. Il a dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le crois, je le relèverai. Il l'a fait. La tombe vide en est la preuve, et son apparition avec plus de 500 témoins oculaires en est une preuve. Et les disciples, remplis de pouvoir, allaient prêcher ce Jésus-Christ ressuscité, eux qui auparavant pleuraient recroquevillés dans un coin comme des lâches effrayés. Voilà une autre preuve. La naissance de l'Église en est une preuve. Comment allez-vous expliquer l'existence de cette personne, née d'une vierge, qui vit une vie sans péché, qui dit des choses si profondes qu'elles ne pourraient en aucun cas provenir d'un esprit humain, qui fait des choses qui ne pourraient pas être faites dans la nature, comme conquérir la mort, et qui influence le monde constamment? Vous ne pouvez pas le définir sur le plan humain. C'est impossible. Pensez-y de cette façon. Si Dieu devenait un homme, que se passerait-il? Que se passerait-il si Dieu devenait homme? Eh bien d'abord, si Dieu devenait un homme, nous nous attendrions à ce qu'il ait une naissance miraculeuse, n'est-ce pas? Je veux dire que si Dieu devenait homme, il ferait une entrée spectaculaire. Jésus l'a fait. Si Dieu devenait un homme, nous nous attendrions à ce qu'il soit différent de nous tous, à ce qu'il soit saint. Jésus l'a fait. Si Dieu devenait un homme, nous nous attendrions à ce que ses paroles soient les paroles les plus divines, les plus claires, les plus puissantes, les plus autoritaires, les plus vraies et les plus pures jamais prononcées. Et les paroles de Jésus l'étaient. Si Dieu devenait homme, nous nous attendrions à ce qu'il manifeste un pouvoir surnaturel. Jésus l'a fait. Si Dieu devenait un homme, nous nous attendrions à ce qu'il ait un impact universel et permanent sur le monde. Jésus l'a fait. Et si Dieu devenait un homme, nous nous attendrions à ce qu'il soit capable de vaincre la mort. Jésus l'a fait. Vous savez quoi? Si Dieu devenait un homme, il serait Jésus, et il l'était. Il l'était. Et c'est tout le sens de Noël. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et c'est tout le point du Nouveau Testament. Je vais conclure en vous demandant de regarder dans Jean 20, au verset 30 et 31. Je crois qu'il résume la signification de la révélation qu'est Jésus-Christ. Jésus a fait encore, Jean 20, verset 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ils ne sont pas écrits. En passant, si vous regardez au chapitre 21, verset 25, vous trouverez que les livres du monde ne peuvent pas tous les contenir. Donc nous n'en avons pas la liste complète. Mais le verset 31 dit « Mais ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Pourquoi? Et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom? Quel genre de vie? Une vie spirituelle? Une vie éternelle? Une vie abondante? Une vie réelle? Vous voyez que c'est exactement ce que Paul dit. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est venu dans le monde en tant que Jésus-Christ, pour nous racheter, et en observant sa vie, nous devons croire qu'il est le Fils de Dieu, et en croyant que nous avons la vie par son nom. Dieu était en Christ, 2 Corinthiens 5, 19 nous dit. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Puis il ajoute, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Le message est simple. Dieu est venu dans le monde sous la forme de Jésus-Christ. Si vous croyez, vous avez la vie éternelle. Si vous croyez et le recevez comme sauveur, vous avez la vie éternelle. Pour ceux d'entre nous qui croient et qui sont réconciliés avec Dieu, il nous donne le ministère de la réconciliation et nous renvoie en tant qu'ambassadeurs pour le représenter. Il y a donc un message pour nous tous. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, c'est son message pour vous. C'est son cadeau pour vous. Si vous avez donné votre vie à Christ, savez-vous que vous êtes maintenant appelé à être un ministre de la réconciliation, à devenir un ambassadeur de Jésus-Christ, et appeler les autres à rejoindre le royaume, à dire aux autres de se réconcilier avec Dieu. Il n'y a aucun autre moyen d'expliquer Jésus-Christ autrement qu'étant Dieu fait chair. Et si vous refusez de le faire, c'est parce que vous aimez votre péché et que vous choisissez vos ténèbres plutôt que la lumière. C'est ce que Jésus nous dit. Et il le dit si clairement. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il a placé le fardeau sur le peuple. Votre réponse à Jésus-Christ vous regarde. C'est votre réponse. Alors que l'Esprit de Dieu invite votre cœur, répondez dans la foi. Et si vous l'avez déjà fait, prenez votre responsabilité d'aller prêcher le message de la réconciliation au monde. Inclinons-nous dans la prière. Père gracieux, l'histoire simple mais profonde de Jésus-Christ nous a été rappelée une nouvelle fois. Elle est la vérité vérifiée non seulement par l'histoire, mais vérifiée aussi par le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs. l'Esprit qui nous convainc concernant Jésus-Christ, concernant la parole de Dieu. Nous demandons donc, Père, que tu envoies l'Esprit à tout cœur et toute vie qui a refusé d'accueillir Jésus-Christ, qui n'a pas cru à la plénitude de la foi du salut, afin que l'Esprit de Dieu leur apporte cette vraie foi, qui condamne le péché, qui tourne le cœur vers le Christ. Nous prions à cette fin, Père, pour chaque vie. Nous prions aussi pour ceux qui te connaissent, qu'ils portent, en signe de gratitude pour la réconciliation qu'ils ont reçue, la parole de réconciliation dans le monde qui nous entoure.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.